Bonsoir. Les récentes ordonnances du président de la République nommant des mandataires de l'État à la tête de la SNCC et la GECAMINE au centre d'une polémique au sein de la classe politique congolaise. Une frange estime que ces ordonnances violent la Constitution et une autre les trouve conformes à la loi fondamentale. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 10 juin 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Léon Mondolé, député national et vice-président du groupe parlementaire MLC à l'Assemblée nationale. Il est aussi cadre de la plateforme Lamouka. Monsieur Mondolé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Monsieur Koussema, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Professeur Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir, je voudrais rectifier l'université de Lubumbashi et non de Kinshasa.
Merci professeur, merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les ordonnances présidentielles nommant les mandataires de l'État à la tête de la SNCC et la GECAMINE violent la Constitution. C'est ce que dénonce le député national Henri Thomas Lukondo. Ce dernier exhorte le président de la République à bien s'entourer pour éviter ce genre d'erreur qu'il qualifie de grave. On va l'écouter au micro de Richard Junior Kamunga.
Dans notre Constitution, il y a seulement 4 cas où le président de la République peut seul signer une ordonnance. Ce sont les cas limitativement et expressément énumérés aux articles 78, 80, 84 et 143 de la Constitution, si je ne m'abuse. Mais ce qui est grave, pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle de notre pays, ces ordonnances n'ont fait aucune allusion à la Constitution. La Constitution qui est le fondement de tous les actes juridiques signés par le chef de l'État. Le chef de l'État qui en est par ailleurs le garant. Ce qui est encore étonnant, quand vous lisez ces ordonnances-là, et qu'il est stipulé dans ces ordonnances qu'elles sont faites sur proposition du gouvernement. Alors, je me suis posé la question de savoir c'est quel gouvernement, parce que le gouvernement Tshibala était déjà démissionnaire, le nouveau Premier ministre n'a pas encore formé son gouvernement, qui doit être investi par nous à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que le gouvernement Tshibala assume l'intérim, parce que l'acte nommant le Premier ministre Ilunga abroge toutes les dispositions antérieures, comme on le dit de façon traditionnelle. Alors, le gouvernement évoqué dans ces ordonnances est un gouvernement fantôme, alors.
Pour le constitutionnaliste André Mbata, les deux ordonnances présidentielles décriées se justifient parce que le pays est dans une situation exceptionnelle. Les propos du constitutionnaliste sont recueillis par Honoré Missenga.
Nous sommes tous d'accord que dans un temps normal, les ordonnances présidentielles dans plusieurs matières doivent être contresignées par le Premier ministre. Évidemment, il y a des exceptions. Mais ici, je trouve qu'on est dans une situation exceptionnelle. Vous avez là un Premier ministre qui a été nommé, mais qui n'est pas encore investi. Vous avez un Premier ministre qui est démissionnaire, mais qui expédie encore les affaires courantes. Et en même temps, l'État doit continuer. Qui représente l'État? C'est le chef de l'État qui représente l'État. Et l'article 69 nous dit clairement qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des services publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. L'État ne doit pas mourir ou cesser d'exister. Il n'y a pas d'inanition de l'État parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Non, l'État doit fonctionner. Je crois que c'est dans ces circonstances exceptionnelles que le président de la République a pris ses ordonnances.
Léon Mondolé, député national et vice-président du groupe parlementaire MLC à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi cadre de la plateforme Lamouka. Vous êtes l'auteur de la motion incidentielle sur la violation de la Constitution et des lois par les institutions de la République. Vous avez demandé à la plénière de l'Assemblée nationale de formuler une recommandation par laquelle on demanderait au président de la République de rapporter ses ordonnances de nomination des animateurs de la SNCC et de la GECAMINE. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche?
Merci, madame. La République démocratique du Congo, par notre constitution, était un État consacré du régime semi-présidentiel. Donc, il y a la collaboration entre les pouvoirs cet État, ou si vous voulez, cette forme de régime, est assis sur un socle. Le socle de la responsabilité, mais aussi le socle de la redevabilité. Nous avons constaté que le président de la République, qui est soumis aux dispositions strictes de la Constitution, notamment l'article 69 où il prête serment de respecter la Constitution, que l'institution président de la République a violé la Constitution en nommant le mandataire dans ces deux entreprises citées sans pour autant faire allusion à la Constitution. Vous avez suivi la réaction du collègue Lokondo, il a insisté sur ça, on n'a pas fait allusion à la Constitution. Et si vous suivez du côté de la forme, les dispositions de l'article 81 de la Constitution n'ont pas été respectées. Et c'est pour cela, conformément au principe de redevabilité, associé bien sûr à ce principe-là de responsabilité, nous avons voulu éveiller la conscience des représentants du peuple.
Qu'est-ce que vous reprochez au président de la République lorsque vous dites qu'il a violé la Constitution? Il a fait quoi concrètement?
Madame, pour désigner ou nommer les mandataires, la Constitution prévoit en son article 81 une procédure. La première démarche, c'est que ces ordonnances sont discutées, sont produites et discutées au niveau du gouvernement et au niveau du Conseil des ministres où le président lui-même préside. Et ce n'est qu'après que le président peut estimer avoir signé ou prendre la décision de signer des ordonnances. Le président ne l'a pas fait. Vous vous souvenez, madame, depuis cette législature, il n'y a pas eu de conseil des ministres. Il n'y a même pas de gouvernement. Et le président, qui est le garant de la Constitution, le protecteur de la Constitution, ne peut pas ou ne pouvait pas ne pas respecter la Constitution.
Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas violé la Constitution en amenant cette question au niveau de la plénière? On sait que les actes du président posés par le président de la République ne peuvent pas être discutés au niveau du Parlement, de l'Assemblée.
J'ai parlé du principe de la redevabilité. Le président de la République n'est pas un monarque. Notre Constitution ne consacre pas une monarchie divine où le président peut tout faire comme il veut. Le principe de responsabilité repose sur le fait que les actes de gestion du président de la République, nous ne pouvons pas les discuter si ces actes ont respecté la Constitution. C'est-à-dire, s'il y avait des problèmes, on pouvait plus convoquer le gouvernement. Si le gouvernement était là, si le Premier ministre était investi. Mais les actes posés en dehors de la Constitution ne laissent pas le président à l'abri des critiques. Le peuple peut se saisir. Et dans une démocratie, le peuple agit soit par lui-même ou soit par ses représentants. Et nous sommes les représentants du peuple. Nous avons reçu la mission d'agir au nom du peuple qui a le pouvoir de contrôle sur le président de la République. Et c'est à ce titre que ces ordonnances ont été discutées au niveau de l'Assemblée nationale. On pouvait condamner l'Assemblée nationale s'il y avait une résolution contraignant le président de la République.
Mais vous demandez au président de rapporter...
Le principe élémentaire un principe élémentaire de la démocratie, de contrôler, de veiller à ce que aucune personne ne soit au-dessus de la loi.
Alors, dans votre argumentaire, vous avez fait savoir que ces ordonnances ne sont pas contresignées par le Premier ministre. De plus, vous avez mentionné que ces ordonnances ont été prises sans avoir été délibérées en Conseil des ministres, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que vous pouvez prouver que ces ordonnances n'ont pas été contresignées par le Premier ministre?
Madame, ces ordonnances, d'abord, ont fait des mouvements. Moi, je vais vous faire rire. Les premières ordonnances, le président de la République a signé seul. Et son directeur du cabinet les a certifiées. Et juste après, ils ont encore rectifié les ordonnances et ils ont fait signer un premier ministre qui n'est pas en fonction. C'est parce que la disposition qui nomme Ilunga abroge toutes les dispositions antérieures. On ne peut pas faire endosser le premier ministre sortant d'engager la République alors que l'ordonnance même nommant ce premier ministre le met en situation de orgie.
Merci monsieur Léon Mondolé. Giscard Koussema, vous êtes directeur adjoint de la presse présidentielle. La première question, Giscard Koussema, les ordonnances signées par les présidents de la République ont été contresignées par qui?
Madame, je vais répondre à votre question. Je voudrais, dès le départ, dire que depuis quelques jours, l'opinion est désorientée par de pseudo-analyses et des lectures fallacieuses de la Constitution. Il y a beaucoup d'allégations. Je pense qu'il est temps pour nous aujourd'hui de fixer l'opinion une fois pour toutes, ok, autour de toutes ces allégations mensongères et qui, finalement, nous allons le démontrer ici, démontrent simplement soit d'un amateurisme ou simplement d'un manque de connaissances. Alors, nous allons répondre à votre question, mais commençons par à réagir aux propos de l'honorable Thomas Lokondo. Tout porte à croire que finalement, ni l'honorable Lokondo, ni notre co-débatteur ici, n'a accédé à l'acte juridique pris par le chef de l'État. Et ça, c'est grave pour des personnalités de haut rang, ce sont des députés nationaux. Je crois qu'ils sont le tout premier, à partir du moment où ils votent des lois, ils sont le tout premier à savoir comment obtenir les documents juridiques pris par le chef de l'État. Nous apprenons ici qu'il y aurait des actes. L'un qui dit que voilà, l'acte ne fait jamais allusion à la Constitution. Un autre qui ajoute qu'il n'a pas de contre-saint. Et un autre qui dit que le directeur des cabinets. Mais ce sont des monstruosités, madame. La première assurance que nous voulons donner à vous et à nos téléspectateurs, c'est que...
À nos auditeurs.
À nos auditeurs, merci. C'est que pour avoir les actes juridiques pris par les chefs de l'État, il ne faut pas aller par quatre chemins, il ne faut pas aller dans les laboratoires des réseaux sociaux, il faut aller au journal officiel. Et j'ai l'impression qu'ici, j'aurais bien voulu voir l'honorable Lokondo en face, ou notre co-débatteur qui est là, nous brandir une copie de ces documents. Ce sont des allégations mensongères. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des ordonnances régulières. Nous avons l'avantage d'avoir des copies de ces ordonnances ici. Donc l'ordonnance 62 et 63,
oui,
il fait bel et bien d'abord référence à la Constitution et que ces ordonnances ont respecté les prescrits de la Constitution. Alors nous allons commencer peut-être par balayer.
Oui, le document a été contresigné. Vous confirmez que le document a été contresigné par le Premier ministre Bruno Tshibala.
Les documents sont bel et bien contresignés par le Premier ministre Bruno Tshibala, conformément au prescrit de l'article 81 de notre Constitution. Les documents est bel et bien signé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Voilà.
Mais les ordonnances lues sur la chaîne nationale ne parlaient pas, on n'a pas fait allusion à la signature ou au contresens du Premier ministre Bruno Tshibala.
Voilà, madame. C'est d'abord là l'erreur pour nos débatteurs, pour nos députés, de se servir d'une lecture de la presse.
Mais c'est quand même le porte-parole du chef de l'État
madame,
qui a venu lire ses ordonnances.
Madame, c'est le porte-parole qui lit une copie de l'ordonnance. Ce n'est pas l'ordonnance. L'ordonnance prise par le chef de l'État n'a pas de contre-saint du directeur de cabinet, comme on le dit. Les directeurs de cabinet,
ils certifient une
copie. Non, madame, l'erreur de leur part, bien sûr. Et ça, c'est grave pour des personnalités de haut rang. Ce sont des députés nationaux. Les directeurs de cabinet certifient une copie. C'est bien dit, copie certifiée conforme. C'est une copie. On ne peut pas se servir d'une prise vidéo, simplement d'un extrait sonore et en faire un document et pour dénaturer les contenus.
Pourquoi elle a pas fait allusion au contre-saint du premier ministre?
Madame, un lapsus peut arriver, s'il vous plaît. Un lapsus peut arriver. Nous avons suivi les porte-paroles qui,
c'est peut-être ça, tout
peut arriver à tout le monde
erreur.
Qui a dit, par exemple, que c'était contresigné par le directeur des cabinets. Le directeur des cabinets ne contresigne pas. C'est un lapsus, ça ne change à rien. Nous avons suivi les jours de la proclamation, même les journalistes qui étaient sur plateau, a fait un lapsus pour dire que ces actes étaient pris par le président de la République sorti. Donc ça ne change à rien. Ça ne change à rien. Donc ce n'est pas une base, c'est pas le document. Madame, vous êtes de la presse. Et la presse, parfois, nous voulons, la population a besoin de savoir qui a été nommé. Et donc, vous pouvez dire, le président de la République ordonne tel est nommé à tel poste. Cela ne signifie pas qu'on ne fait pas allusion. Et ça, c'est une erreur grave de leur part. Et nous disons ici, les documents, les actes juridiques pris par les chefs de l'État, on connaît la procédure, c'est le journal officiel. La moindre des choses qu'aurait pu faire le Kondo, l'honorable Mondolé, c'est d'aller. Mais lorsqu'on doit induire, et c'est plus grave encore, lorsque l'on doit faire une capture audio, un document de presse, vous allez ouvrir un débat au niveau de l'Assemblée nationale, alors que cela ne rentre même pas dans vos prescrits constitutionnels, mais madame, on est tenté de croire qu'il y a un complot. Simplement, ou soit c'est de l'amateurisme, soit un acte délibéré qui vise simplement à humilier les chefs de l'État, et ça c'est grave. Et donc, la présidente de l'Assemblée nationale qui a laissé passer ce genre de débat peut être jugée de complice simplement, et c'est très grave.
Alors, on va revenir sur les propos de l'honorable Lokondo, qui estime que l'ordonnance signée par Bruno Tshibala, contresignée par Bruno Tshibala comme premier ministre, cet acte est très grave parce que il devait signer comme premier ministre intérimaire.
Madame, la Constitution, vous avez la copie de la Constitution, vérifiez article 81, qu'est-ce qu'il est dit? C'est le premier ministre qui contresigne et c'est ce qui a été fait. Et donc cet article ne dit pas que c'est le premier ministre, il est intérimaire, il fait ceci. Et puis allons dans les fonds, madame. Le contre-saint du premier ministre, allons dans la notion du contre-saint simplement. C'est une prérogative du chef de l'État. Donc, le fait de contresigner l'acte par le premier ministre ne lui donne pas la paternité de ces textes, simplement. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre.
Merci.
Donc, il aurait fallu poser cette question à nos analystes pour qu'ils comprennent que la notion du contre-saint, le premier ministre Tshibala, est-il premier ministre, oui ou non? Les textes ne disent pas, il faut aller vers, il expédie les affaires courantes, il est ceci ou cela. C'est un acte
Merci,
juridique pris par les chefs de l'État.
Merci, Kousema, professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département de sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur, comment vous analysez cette situation, cette polémique autour des récentes ordonnances du président de la République nommant des mandataires à la tête de la SNCC et la GKMIN?
Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez de me poser. D'entrée de jeu, je voudrais dire que il est reconnu au président de la République les prérogatives ou la latitude de nommer les mandataires des entreprises publiques. Et ces prérogatives lui sont accordées par l'article 81, je cite, « Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant invoque sur proposition du gouvernement. » Je souligne là-bas parce que je reviendrai dans les commentaires sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres. On énumère un certain nombre de gens qui nomment. Au point 5, il est dit ceci, les responsables des services et établissements publics, les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Et l'article 81 termine par les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre. Voilà. Maintenant, lorsque nous nous mettons à analyser cet article, on comprend aisément que, certes, le président de la République peut nommer, mais cette nomination-là ne vient pas de son gré, mais c'est sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Alors la question que l'on peut se poser est celle de savoir, est-ce que c'est le gouvernement qui a proposé? Et quand est-ce que le gouvernement a-t-il proposé? Est-ce que cette proposition du gouvernement a été délibérée en Conseil des ministres? C'est un problème. Alors, le deuxième est au niveau de la validité même des ordonnances. Lorsque nous prenons le cas de l'Italie, tout acte du président de la République n'est valide que lorsqu'il est contresigné par un membre du gouvernement qui l'a proposé et en assume la responsabilité. Mais dans le cas de notre pays, il s'agit d'un régime semi-présidentiel. Je reconnais que de tels actes doivent aussi être contresignés par le Premier ministre. Je pense, à mon avis, que le contresign du Premier ministre devient dans ce cas un élément substantiel de l'ordonnance. C'est-à-dire, lorsque ce contresign fait défaut, alors l'ordonnance devient sur le plan administratif invalide. Mais, tel qu'on vient de nous présenter la situation, il s'avère que l'ordonnance a été bel et bien signée par le Premier ministre Tshibala. Mais il y a un problème administratif qui se pose. Le Premier ministre Tshibala était déjà réputé démissionnaire, remplacé par quelqu'un d'autre. À ce niveau-là, il n'avait pas ce que nous pouvons considérer en administration, la compétence rationnée temporis. C'est-à-dire que un candidat réputé, donc un membre ou une autorité administrative réputée démissionnaire, ne peut en aucun cas prendre des actes administratifs qui engagent l'administration publique. Alors, je voudrais, dans ce cas, je comprends ceux qui sont en train de mettre de point de vue tel que l'ordonnance viole la Constitution. C'est parce que le Premier ministre Tshibala avait-il réellement la compétence de signer ces documents pendant qu'il était député démissionnaire? Alors, je voudrais réagir aussi au propos de Léo Mondole et même de l'honorable Thomas Lokonde lorsqu'ils disent que l'ordonnance du président de la République ne fait même pas allusion à la Constitution. Et ici, je voudrais que l'opinion le sache. La référence à la Constitution s'appelle dans les documents administratifs comme étant des visas. Alors, il ressort que un acte administratif qui n'a pas de visa ou qui présente des faux visas demeure sur le plan administratif un acte valide. Donc, les visas ne sont pas des éléments substantiels d'un document administratif. Tout comme un acte peut manquer de visa, mais sur le plan administratif, il demeure encore valide. Donc voilà la lecture que je peux faire pour dire que c'est vrai, nous pouvons analyser froidement, on peut trouver qu'il y a des éléments qui gênent, qui amènent les autres à affirmer que cette ordonnance-là viole la loi. Tel est le cas par exemple du contre-saint du ministre qui expédiait peut-être les affaires courantes ou qui est déjà, qui n'est plus en fonction mais qui a quand même contresigné un document. Mais dans le fond, le président de la République donc a pu respecter ses prérogatives et à ce titre, on peut considérer que l'ordonnance du président de la République est valide dans certains aspects, mais dans d'autres, il y a lieu un peu de pouvoir discuter là-dessus.
Alors, donc, si je vous comprends bien, monsieur professeur Moudimbi, on ne va pas reprocher à ceux qui pensent que le chef de l'État n'a pas respecté la Constitution, tout comme ceux qui estiment que le chef de l'État est resté dans la Constitution. Donc, les deux...
Oui,
les...
Donc, c'est-à-dire les uns et les autres ont une part de raison, en ce sens que il y a des parties, donc je dirais qu'il y a des points sur lesquels les uns et les autres avancent des arguments qui sont fondés. Par exemple, le ministre Tshibala ne pouvait pas signer parce que il n'avait pas la compétence.
La compétence, vous l'avez dit, professeur.
À l'élément temporel.
Vous l'avez dit, professeur, madame. Merci. On va vous redonner la parole. Jusqu'à Kousema, vous allez attendre. On va prendre la question pour le député Léon Mondolé. Une réaction qui nous vient depuis Lubumbashi.
Dans la province du Haut-Katanga. En fait, le chef de l'État a le pouvoir discrétionnel. Il n'est pas de la compétence de la chambre basse à pouvoir contrôler les ordonnances du chef de l'État. Il faut éviter les licenciements et les émotions dans la gestion des affaires qui impliquent tout un pays. Et je me demande même quel genre de député que nous avons au Congo. Je crois qu'il faut laisser le président jouir de son pouvoir, car personne ne peut me dire un jour où le président sortant, le président Kabila, a pris une décision sans consulter quelqu'un et cela a créé des discussions au sein de la classe politique. Alors on doit bien cesser cette discussion car ça va nous amener nulle part et laisser le président Fatih, le président Félix Tshisekedi, faire son travail.
Honorable Mondolé, vous avez la parole.
Je voudrais dire à Patient que les affaires publiques, les affaires de la République sont gérées selon la règle de l'art. Et le président de la République a prêté serment sur fond de la Constitution. Il a prêté serment de protéger la Constitution. Le président de la République, sa mission principale est de veiller au respect de la Constitution. Donc, celui qui protège la Constitution, il ne peut pas être violateur de cette Constitution. On ne peut pas dire que les ordonnances qui nomment les mandataires sont du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ça, c'est une fausse vision. Ces ordonnances sont produites selon une procédure. Il y a le ministre de portefeuille qui prépare. C'est le ministre de portefeuille qui gère le secteur de portefeuille. Il sait là où il y a des problèmes, là où il y a des failles. Il gère la question. Il amène le projet au niveau de la commission gouvernementale et à ce moment-là, c'est la commission qui s'occupe des questions économico-financières du gouvernement. On discute de la question et dès que la question est bien ficelée et est mise, on l'amène au niveau du Conseil des ministres. Et on discute cette question au niveau du Conseil des ministres. C'est alors que si le dossier est fait prêt, on autorise au président de la République de prendre une ordonnance. C'est pourquoi la Constitution a prévu cette procédure. C'est pour protéger le président de la République. Dans notre Constitution, le président de la République ne gère pas. C'est pour cela, c'est de là qu'émane le principe d'irresponsabilité. C'est pour cela que le Parlement ne peut pas les contrôler parce qu'il ne gère pas. Mais pour des actes de gestion qui ressortent des attributions du gouvernement, le président de la République doit respecter cette procédure et solliciter le contre-saint parce que le contre-saint est en fait la contrepartie de l'irresponsabilité. Donc, le président de la République, n'ayant pas respecté cette procédure, il a signé des ordonnances que nous continuons à considérer comme inconstitutionnelles. Et c'est vraiment inconstitutionnel parce que ça n'a pas respecté les deux principes. Un, d'abord, ça n'a pas été discuté au niveau du gouvernement. Et puis, de deux, il n'y a pas de contre-saint. Et nous pouvons même considérer ça entre guillemets comme un faux parce que Bruno Tshibala, qui a contre-signé, n'a pas qualité, n'a pas compétence de contre-signé. D'ailleurs, le collègue, le professeur vient de le dire. Il n'a pas qualité. Il ne pouvait pas, en tant que premier ministre démissionnaire, il ne pouvait pas contre-signer les actes de gestion.
Le professeur Mbacke a dit que nous sommes dans une situation exceptionnelle. On n'a pas encore de gouvernement. Il y a peut-être des urgences dans ces deux entreprises. Est-ce que les chefs de l'État devaient attendre qu'on investisse le gouvernement pour pouvoir passer à la nomination ou à la restructuration de ces entreprises? Je vais vous donner la parole, Kousema. Patientez.
Madame, quelle urgence? Je voudrais que le collègue, en fait, mon co-débatteur, Poussema, puisse me dire quelle urgence qui était à la SNCC, quelle urgence qui est à la Chécamine aujourd'hui. Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Mais pourquoi, s'ils savent qu'il y a des urgences, et pourquoi ils ne peuvent pas nommer, nous produire vite un gouvernement qui va s'occuper de la gestion courante de la République? Alors, madame, il n'y avait pas urgence et il n'y a pas une situation exceptionnelle.
Merci.
Et ça, c'est une justification, malheureusement.
Merci Léon Mondolé. Jusqu'à Koussema, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa avant de réagir aux propos du professeur Moudimbi et du député Léon Mondolé.
C'est le 5KBA depuis la ville-province de Kinshasa. Certes, le président de la République a le pouvoir de nommer par ordonnance les hauts fonctionnaires de l'administration publique, les responsables des services et établissements publics, les mandataires d'État dans les entreprises et organismes publics, etc. Et les ordonnances intervenues dans cette matière doivent être contresignées par le Premier ministre, ce qui n'était pas le cas avec les récentes ordonnances du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et si c'est vrai que ces ordonnances ont été signées par le directeur de cabinet, comme on l'entend, je trouve que c'est une violation de la Constitution. Car cette dernière ne donne nullement droit au directeur du cabinet de contresigner les ordonnances présidentielles. Je conclus par là que l'entourage du chef de l'État doit bien l'aider à bien travailler plutôt que d'agir par sentiment.
Je crois que cet auditeur n'a pas suivi votre réaction de tout à l'heure. Il nous a pris peut-être le coup. Vous avez la parole.
Justement, nous voulons apaiser notre auditeur parce qu'il n'est pas le seul. Je dis dès le départ que l'opinion est désabusée et désorientée par des propos fallacieux. Nous voulons confirmer ici, cher auditeur, votre nom m'échappe. Que au départ, la première allégation, c'était de dire que ces ordonnances n'ont jamais fait référence à la Constitution. Nous avons avec nous ici ces copies d'ordonnances. Nous disons bien que ces ordonnances font bel et bien référence à la Constitution. Je crois que c'est le premier qui va calver. Deuxièmement, il nous a été dit ici que ces ordonnances n'ont jamais été contresignées. Nous vous faisons voir que ces ordonnances ont bel et bien été contresignées par le Premier ministre.
Voilà.
Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, effectivement, qui rentrent dans ces débats sans avoir accédé aux documents. Et nous disons ici, les réseaux sociaux, les captures d'écran ne constituent pas des sources de documentation. Donc nous ne publions pas une ordonnance dans les réseaux sociaux. J'aurais bien voulu que nos débatteurs nous brandissent, et je comprends qu'il s'agisse de Lokondo, de l'honorable Mondolé, tout comme du professeur Moudimbi, que personne d'entre eux n'a accédé à ces documents. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a été dit ici que l'autre irrégularité, c'est le fait que qu'il n'y a jamais eu débat au niveau du gouvernement. C'est là justement que je rejoins les professeurs Mbata pour dire que nous sommes effectivement dans une période exceptionnelle, dans la mesure où nous avons un Premier ministre qui est remplacé par un autre, mais que celui-là n'est pas encore entré en fonction parce qu'il y a encore, et c'est conformément à nos lois, parce qu'il n'a pas encore défendu
mais
son gouvernement investi.
Mais pourquoi
justement,
le chef de l'État
la solution,
n'a pas attendu
justement,
qu'on puisse investir le gouvernement?
Laissez-nous, madame, justement.
Allez-y.
Ok, la réponse se trouve justement dans l'invocation de la notion d'urgence et de la nécessité. Et j'insiste ici, au terme de l'article 69, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions, de la continuité du service de l'État. Donc l'État ne s'arrête pas parce qu'il y a un Premier ministre qui n'est pas encore investi. Et donc, à partir du moment où les chefs de l'État invoquent l'urgence et la nécessité, et j'insiste
c'est,
ici...
C'était quoi l'urgence
madame,
et la nécessité
justement,
pour les deux entreprises?
Justement, il n'appartient pas à un député, il n'appartient pas... Les chefs de l'État, au terme de la Constitution, n'est pas obligé de justifier auprès d'un député, soit-il, l'urgence qui a présidé à la nomination du chef. J'aurais bien voulu voir ces analystes aujourd'hui nous dire, nous donner des arguments des droits pour justifier, par exemple, la présence des intérimaires pendant 12 ans dans des entreprises. J'aurais bien voulu voir ces analystes aujourd'hui venir nous dire ici, nous donner des arguments des droits pour justifier comment, dans des entreprises de l'État, on a vu des directeurs généraux qui ne sont même pas membres de conseils d'administration. Donc, je pense qu'ici, il y a d'abord de le départ une question de mauvaise foi. Donc, nous insistons à partir du moment où les chefs de l'État,
donc vous pensez qu'on en veut au titre de
l'article 69, mais bien sûr, c'est flagrant. À partir du moment où on veut un débat sur des prémices qui sont fausses, donc c'est désorienter délibérément la population pour nuire au chef de l'État sans avoir accès aux documents. Nous avons le droit de conclure ainsi, madame. Vous avez avec nous des copies. Lorsqu'un auditeur dit ici, voilà, le directeur des cabinets contresigne, j'insiste, ce n'est pas sur base d'un lapsus d'un collaborateur du chef de l'État qui fait lecture
qu'on va dire. Mais justement, que ce lapsus a induit en erreur plusieurs personnes.
Les directeurs des cabinets ne contresignent pas les actes. Vous avez deux ordonnances, madame. Vous avez
vu la signature
du directeur des cabinets.
Les directeurs des cabinets
certifient. Merci. Une copie qui est conforme à l'original.
Merci.
Nous allons terminer, madame, pour
non,
dire
non, 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 Jusqu'à, on va respecter le chrono. On va vous redonner.
Jusqu'au niveau du Parlement.
Vous l'avez dit tout à l'heure, on va vous redonner la parole pour conclure. On va prendre cet auditeur pour le professeur Jeff Moudimbi.
Magene Kakumbo, la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Ceux qui revendiquent Tambour Bata la violation de la Constitution ont pleinement raison, car il ne revient pas au président de la République de nommer ce genre de personnalité aussi longtemps qu'on n'a pas encore un gouvernement en place qui doit conseiller des ministres pour trouver la solution à ce genre de nomination. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il doit bien respecter la Constitution, chose qu'il semble maintenant négliger. À mon avis, les députés du Front commun pour le Congo n'ont pas tort, car ils de leur droit. Celui de respecter la loi du pays, même s'ils avaient échoué dans leur 18 ans de règne.
Professeur Jeff Moudimbi, qu'est-ce que vous pensez de l'argumentaire de Giscard Koussema tout à l'heure, qui estime, comme le prof Mbata, que nous sommes dans une situation exceptionnelle, et donc le chef de l'État sait pourquoi il a procédé à la nomination de ses mandataires à la tête de ces deux entreprises.
Merci beaucoup, madame. Je voudrais dire que tout ce que nous posons, tout acte que nous posons, à quelque niveau que ce soit de l'appareil étatique, est régi par les textes légaux et réglementaires. Bon, c'est vrai, je respecte beaucoup le point de vue du professeur qui soutient que le président de la République l'a fait pour des circonstances purement exceptionnelles. Et je pense que les textes légaux et réglementaires pouvaient aussi déjà en son temps dire que, en cas de circonstances exceptionnelles, le président de la République est autorisé à le faire. Ici, ça devient maintenant une interprétation des doctrinaires, tout simplement. Alors, je voudrais en profiter par la même occasion et répondre à notre compatriote de Bukavu. Ça indique que non, le président de la République ne doit pas nommer à partir du moment où le gouvernement n'est pas encore formé. Moi, j'ai dit non, ça c'est une fausse lecture des faits. Le président de la République est en droit de nommer. Cela relève de ses prérogatives constitutionnelles telles qu'il est prévu à l'article 81 de la Constitution de la République. Mais le problème du choc, c'est lequel? C'est au niveau de la procédure à suivre. Et c'est ainsi que moi, je voudrais vraiment insister que l'entourage du président de la République, parce que le président de la République n'est pas obligé de tout faire, c'est pourquoi il est entouré par des conseillers. Ces derniers doivent jouer correctement leur rôle pour ne pas prêter le flanc à l'opposition. C'est notamment quand on dit que les mandataires de l'État dans les entreprises publiques sont nommés, relevés de leurs fonctions. Le KFA a révoqué sur proposition du gouvernement. Donc il appartenait au gouvernement de proposer. C'est vraiment un problème de la procédure. Un autre problème lié à la procédure, c'est celui du contre-sens de l'ordonnance du président par le Premier ministre. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le cabinet du président de la République aurait joué correctement le jeu pour que ceci ne puisse pas paraître au grand jour, que l'on commence à dire que on a tripatrié l'ordonnance dans sa forme orthodoxe. Il était contresigné par le directeur de cabinet, c'est par la suite des critiques et que vite on a retiré les premières ordonnances pour présenter d'autres sur lesquelles on trouve la signature du Premier ministre.
Alors, professeur, ça sera aussi votre conclusion. Quelles sont les limites d'un Premier ministre qui expédie les affaires courantes?
Voici, vous venez de le dire, un Premier ministre qui assume les affaires courantes n'a pas la compétence liée à l'élément temporel. Par conséquent, il ne peut en aucun cas prendre des actes qui engagent l'État ou la République. C'est à ce niveau, parce que c'est ma conclusion, je voudrais quand même en profiter pour rappeler que la réussite d'un mandat est aussi fonction de la qualité de ses conseillers. Il appartient au président de la République de bien sélectionner ses conseillers si réellement il veut réussir son mandat. Un autre élément,
rapidement,
c'est qu'on doit aussi revoir les critères. Je m'excuse, madame, je termine. On doit aussi avoir les critères pour être député, parce que notre constitution accuse de lacunes terribles. Elle met l'accent seulement sur la nationalité, sur l'âge, sur la plénitude des droits civils et politiques, mais on ne met pas l'accent sur le niveau d'instruction.
Merci, professeur.
Ça pose tout le problème.
Merci, professeur Moudimbi. Honorable Léon Mondolé, votre conclusion, on n'a plus beaucoup de temps, soyez vraiment bref.
Ma conclusion, c'est que nous devons cesser de faire de notre président de la République un hors la loi constitutionnelle. Nous ne sommes pas dans une monarchie théocratique. Il faut que tout le monde soit soumis à la loi.
Merci, honorable Léon Mondolé. Jusqu'à Koussema.
Madame, nous nous réjouissons du fait de l'appropriation aujourd'hui des questions publiques par la population, parce qu'il y a quelques années ici, on a vu le président de la République nommer gracier des cadavres ou nommer des fictifs au gouvernement, et que aujourd'hui, la population ait droit à l'information des bonnes sources. Et la bonne source vous dit aujourd'hui que les actes pris par les chefs de l'État ont respecté les prescrits de la Constitution. On a évoqué la Constitution ici, ça respectait la procédure, le Premier ministre l'a contresigné, et donc ce sont des spéculations, et que tous ceux qui distillent aujourd'hui des allégations n'ont jamais accédé, nous les envoyons au service de la présidence de la République ou au journal officiel pour voir les actes authentiques. Les réseaux sociaux ne constituent pas des sources fiables de documentation,
merci,
madame.
Merci, Koussema. C'est la fin de cette émission. Merci. Et merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Donna Madimba, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. William Lungamba était à la prise de son, au micro Kéline Kouté. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.